L'Odyssée, chant premier. Dis-moi, muse, cet homme subtil qui erra si longtemps, après qu'il eut renversé la citadelle sacrée de Troie, et il vit les cités de peuples nombreux, et il connut leur esprit, et dans son cœur, il endura beaucoup de maux sur la mer, pour sa propre vie et le retour de ses compagnons. Mais il ne les sauva point contre son désir, et ils périrent par leur impiété, les insensés, ayant mangé les bœufs de Hélios Hyperionade, et ce dernier leur ravit l'heure du retour. Dis-moi une partie de ces choses, déesse, fille de Zeus. Tout ce qui avait évité la noire mort, échappé de la guerre et de la mer, était rentré dans leur demeure. Mais Odysseus restait seul, loin de son pays et de sa femme, et la vénérable nymphe Calypso, la très noble déesse, le retenait dans ses grottes creuses, le désirant pour mari. Et quand le temps vint, après le déroulement des années, où les dieux voulurent qu'il revît sa demeure en Ithaque, même alors il devait subir des combats au milieu des siens. Et tous les dieux le prenaient en pitié, excepté Poséidon, qui était toujours irrité contre le divin Odysseus, jusqu'à ce qu'il fût rentré dans son pays. Et Poséidon était allé chez les Éthiopiens, qui habitent au loin, et sont partagés en deux peuples, dont l'un regarde du côté de Hyperion, au couchant, et l'autre au levant. Et le dieu y était allé pour une hécatombe de taureaux et d'agneaux, et comme il se réjouissait, assis à ce repas, les autres dieux étaient réunis dans la demeure royale de Zeus Olympien. Et le père des hommes et des dieux commença de leur parler, se rappelant dans son cœur l'irréprochable Égistos, que l'illustre Oreste Agamemnonide avait tué. Se souvenant de cela, il dit ces paroles aux immortels. Ah ! Combien les hommes accusent les dieux ! Ils disent que leurs maux viennent de nous, et seuls, ils aggravent leur destinée par leur démence. Maintenant, voici qu'Égistos, contre le destin, a épousé la femme de l'Atréide et a tué ce dernier, sachant quelle serait sa mort terrible, car nous l'avions prévenu par Herméias, le vigilant tueur d'Argos, de ne point tuer Agamemnon, et de ne point désirer sa femme, de peur que l'Atréide Oreste se vengeât, ayant grandi et désirant revoir son pays. Herméias parla ainsi, mais son conseil salutaire n'a point persuadé l'esprit d'Égistos, et maintenant, celui-ci a tout expié d'un coup. Et Athénée, la déesse aux yeux clairs, lui répondit, « Ô notre père, Cronide, le plus haut des rois, celui-ci du moins a été frappé d'une mort juste. Qu'il meure ainsi, celui qui agira de même. Mais mon cœur est déchiré au souvenir du brave Odysseus, le malheureux, qui souffre depuis longtemps loin des siens, dans une île, au milieu de la mer, et où en est le centre. Et dans cette île plantée d'arbres, habite une déesse, la fille dangereuse d'Atlas, lui qui connaît les profondeurs de la mer, et qui porte les hautes colonnes dressées entre la terre et l'Ouranos. Et sa fille retient ce malheureux, qui se lamente, et qu'elle flatte toujours de molles et douces paroles, afin qu'il oublie Ithaque. Mais il désire revoir la fumée de son pays, et souhaite de mourir. Et ton cœur n'est point touché, Olympien, par les sacrifices qu'Odysseus accomplissait pour toi auprès des nefs argiennes, devant la grande Troie. Zeus, pourquoi donc es-tu si irrité contre lui ? Et Zeus, qui amasse les nuées, lui répondant, parla ainsi. Mon enfant, quelle parole s'est échappée d'entre tes dents ? Comment pourrais-je oublier le divin Odysseus, qui par l'intelligence est au-dessus de tous les hommes, et qui offrait le plus de sacrifices aux dieux qui vivent toujours et qui habitent le large Ouranos ? Mais Poséidon, qui entoure la terre, et constamment irrité à cause du Cyclops qu'Odysseus a aveuglé, Polyphémos, tel qu'un dieu, le plus fort des Cyclopes. La nymphe Thoosa, fille de Forquin, maître de la mer sauvage, l'enfanta, s'étant unie à Poséidon dans ses grottes creuses. C'est pour cela que Poséidon, qui secoue la terre, ne tuant point Odysseus, le contraint d'errer loin de son pays. Mais nous qui sommes ici, assurons son retour, et Poséidon oubliera sa colère, car il ne pourra rien, seul, contre tous les dieux immortels. » Et la déesse Athénée aux yeux clairs lui répondit, « Ô notre père, Cronide, le plus haut des rois, s'il plaît aux dieux heureux que le sage Odysseus retourne en sa demeure, envoyons le messager Herméias, tueur d'Argos, dans l'île Ogygiée, afin qu'il avertisse la nymphe à la belle chevelure que nous avons résolu le retour d'Odysseus à l'âme forte et patiente. Et moi, j'irai à Ithaque, et j'exciterai son fils, et lui inspirerai la force, ayant réuni l'agora des Achéens chevelus, de chasser tous les prétendants qui égorgent ses brebis nombreuses et ses bœufs aux jambes torses et aux cornes recourbées. Et je l'enverrai à Sparte, et dans la sablonneuse Pylos, afin qu'il s'informe du retour de son père bien-aimé, et qu'il soit très honoré parmi les hommes. » Ayant ainsi parlé, elle attacha à ses pieds de belles sandales ambroisiennes, dorées, qui la portaient sur la mer et sur l'immense terre, comme le souffle du vent. Et elle prit une forte lance, armée d'un airain aigu, lourde, grande et solide, avec laquelle elle dompte la foule des hommes héroïques, contre qui, fille d'un père puissant, elle est irritée. Et s'étant élancée du faîte de l'Olympos, elle descendit au milieu du peuple d'Ithaque, dans le vestibule d'Odysseus, au seuil de la cour, avec la lance d'airain en main, et semblable à un étranger, au chef des Taphiens, Amentès. Et elle vit les prétendants insolents qui jouaient aux jetons devant les portes, assis sur les peaux des bœufs qu'ils avaient tués eux-mêmes. Et des héros et des serviteurs s'empressaient autour d'eux. Et les uns mêlaient l'eau et le vin dans les cratères, et les autres lavaient les tables avec les éponges poreuses, et les ayant dressés, partageaient les viandes abondantes. Et le premier de tous, le divin Télémachos, vit Athénée. Et il était assis parmi les prétendants, le cœur triste, voyant en esprit son brave père revenir soudain, chasser les prétendants hors de ses demeures, ressaisir sa puissance et régir ses biens. Or, songeant à cela, assis parmi eux, il vit Athénée. Et il alla dans le vestibule, indigné qu'un étranger restât longtemps debout à la porte. Et il s'approcha, lui prit la main droite, reçut la lance d'airain et dit ces paroles ailées. « Salut, étranger, tu nous seras ami, et après le repas, tu nous diras ce qu'il te faut. » Ayant ainsi parlé, il le conduisit, et Pallas Athénée le suivit. Et lorsqu'ils furent entrés dans la haute demeure, il appuya la lance contre une longue colonne, dans un arsenal luisant, où étaient déjà rangées beaucoup d'autres lances d'Odysseus à l'âme ferme et patiente. Et il fit asseoir Athénée, ayant mis un beau tapis bien travaillé sur le trône, et sous ses pieds un escabeau. Pour lui-même, il plaça auprès d'elle un siège sculpté, loin des prétendants, afin que l'étranger ne souffrît point du repas tumultueux, au milieu de convives injurieux, et afin de l'interroger sur son père absent. Et une servante versa pour les ablutions de l'eau dans un bassin d'argent, d'une belle aiguière d'or, et elle dressa auprès d'eux une table luisante. Puis une intendante vénérable apporta du pain et couvrit la table de mets nombreux et réservés. Et un découpeur servit les plats de viande diverses et leur offrit des coupes d'or. Et un héros leur offrit souvent du vin. Et les prétendants insolents entrèrent. Ils s'assirent en ordre sur des sièges et sur des trônes. Et des héros versaient de l'eau sur leurs mains. Et les servantes entassaient le pain dans les corbeilles. Et les jeunes hommes emplissaient de vin les cratères. Puis les prétendants mirent la main sur les mets, et quand leur faim et leur soif furent assouvis, ils désirèrent autre chose, la danse et le chant, ornement des repas. Et un héros mit une très belle guitare aux mains de Phémios, qui chantait là contre son gré, et il joua de la guitare, et commença de bien chanter. Mais Télémachos dit à Athénée aux yeux clairs, en penchant la tête, afin que les autres ne pussent entendre. « Cher étranger, seras-tu irrité de mes paroles? La guitare et le chant plaisent aisément à ceux-ci, car ils mangent impunément le bien d'autrui, la richesse d'un homme dont les ossements blanchis pourrissent à la pluie, quelque part, sur la terre ferme ou dans les flots de la mer qui les roule. Certes, s'il le voyait de retour à Ithaque, tous préféreraient des pieds rapides à l'abondance de l'or et aux riches vêtements. Mais il est mort, subissant une mauvaise destinée, et il ne nous reste plus d'espérance, quand même un des habitants de la terre nous annoncerait son retour, car ce jour n'arrivera jamais. Mais parle-moi, et réponds sincèrement, qui es-tu et de quelle race? Où est ta ville et quels sont tes parents? Sur quelle nef es-tu venu? Quels matelots t'ont conduit à Ithaque? Et qui sont-ils? Car je ne pense pas que tu sois venu à pied. Et dis-moi vrai, afin que je sache, viens-tu pour la première fois? Ou bien es-tu un hôte de mon père? Car beaucoup d'hommes connaissent notre demeure, et Odysseus aussi visitait les hommes. Et la déesse Athénée aux yeux clairs lui répondit, je te dirai des choses sincères. Je me vante d'être Mentès, fils du brave Anchialos, et je commande aux Taphiens, amis des avirons. Et voici que j'ai abordé ici avec une nef et des compagnons, voguant sur la noire mer, vers des hommes qui parlent une langue étrangère, vers Témésée, où je vais chercher de l'airain et où je porte du fer luisant. Et ma nef s'est arrêtée là, près de la campagne, en dehors de la ville, dans le port Reitros, sous le Néios couvert de bois. Et nous nous honorons d'être unis par l'hospitalité dès l'origine et de père en fils. Tu peux aller interroger sur ceci le vieux Laertès, car on dit qu'il ne vient plus à la ville, mais qu'il souffre dans une campagne éloignée, seul avec une vieille femme qui lui sert à manger et à boire, quand il s'est fatigué à parcourir sa terre fertile plantée de vignes. Et je suis venu, parce qu'on disait que ton père était de retour. Mais les dieux entravent sa route, car le divin Odysseus n'est point encore mort sur la terre. Et il vit, retenu en quelque lieu de la vaste mer, dans une île entourée des flots. Et des hommes rudes et farouches, ses maîtres, le retiennent par la force. Mais aujourd'hui, je te prédirai ce que les immortels m'inspirent et ce qui s'accomplira, bien que je ne sois point un divinateur et que j'ignore les augures. Certes, il ne restera point longtemps loin de la chère terre natale, même étant chargé de liens de fer, et il trouvera les moyens de revenir, car il est fertile en ruse. Mais parle, et dis-moi sincèrement si tu es le vrai fils d'Odysseus lui-même. Tu lui ressembles étrangement par la tête et la beauté des yeux, car nous nous sommes rencontrés souvent avant son départ pour Troie, où alertent aussi, sur leur nef creuse, les autres chefs argiens. Depuis ce temps, je n'ai plus vu Odysseus, et il ne m'a plus vu. Et le sage Télémachos lui répondit, « Étranger, je te dirai des choses très sincères. Ma mère dit que je suis fils d'Odysseus, mais moi, je n'en sais rien, car nul ne sait par lui-même qui est son père. Que ne suis-je plutôt le fils de quelque homme heureux qui dut vieillir sur ses domaines. Et maintenant, on le dit, c'est du plus malheureux des hommes mortels que je suis né, et c'est ce que tu m'as demandé. » Et la déesse Athénée aux yeux clairs lui répondit, « Les dieux ne t'ont point fait sortir d'une race sans gloire dans la postérité, puisque Pénélopéia t'a enfanté tel que te voilà. Mais parle, et réponds-moi sincèrement. Quel est ce repas? Pourquoi cette assemblée? En avais-tu besoin? Est-ce un festin ou une noce? Car ceci n'est point payé en commun, tant ces convives mangent avec insolence et arrogance dans cette demeure. Tout homme, d'un esprit sensé du moins, s'indignerait de te voir au milieu de ces choses honteuses. » Et le sage Télémachos lui répondit, « Étranger, puisque tu m'interroges sur ceci, cette demeure fut autrefois riche et honorée, tant que le héros habita le pays. Mais aujourd'hui, les dieux, source de nos maux, en ont décidé autrement, et ils ont fait de lui le plus ignoré d'entre tous les hommes. Et je ne le pleurerai point ainsi, même le sachant mort, s'il avait été frappé avec ses compagnons parmi le peuple des Troyens, ou s'il était mort entre des mains amies après la guerre. Alors les Panachéens lui eussent bâti un tombeau, et il eût légué à son fils une grande gloire dans la postérité. Mais aujourd'hui, les harpies l'ont enlevé obscurément, et il est mort, et nul n'a rien su, ni rien appris de lui, et il ne m'a rien laissé que les douleurs et les lamentations. Mais je ne gémis point uniquement sur lui, et les dieux m'ont envoyé d'autres peines amères. Tous ceux qui commandent aux îles, à Doulichios, à Samé, à Zakynthos couverte de bois, et ceux qui commandent dans la rue d'Ithaque, tous recherchent ma mère et épuisent ma demeure. Et ma mère ne peut refuser des noces odieuses ni mettre fin à ceci. Et ces hommes épuisent ma demeure en mangeant, et ils me perdront bientôt aussi. Et pleine de pitié, Pallas Athénée lui répondit : Ah, sans doute, tu as grand besoin d'Odysseus, qui mettrait la main sur ces prétendants injurieux. Car s'il survenait et se tenait debout sur le seuil de la porte, avec le casque et le bouclier et deux piques, tel que je le vis pour la première fois, buvant et se réjouissant dans notre demeure, à son retour défiré, auprès d'Ilios Mermeridaïde. Car Odysseus était allé chercher là, sur une nef rapide, un poison mortel, pour y tremper ses flèches armées d'une pointe d'airain, et Ilios ne voulut point le lui donner, redoutant les dieux qui vivent éternellement. Mais mon père, qui l'aimait beaucoup, le lui donna. Si donc Odysseus, tel que je le vis, survenait au milieu des prétendants, leur destinée serait brève, et leurs noces seraient amères. Mais il appartient au dieu de décider s'il reviendra, ou non, les punir dans sa demeure. Je t'exhorte donc à chercher comment tu pourras les chasser d'ici. Maintenant, écoute, et souviens-toi de mes paroles. Demain, ayant réuni l'agora des héros achéens, parle-leur, et prends les dieux à témoin. Contrains les prétendants de se retirer chez eux. Que ta mère, si elle désire d'autres noces, retourne dans la demeure de son père, qui a une grande puissance. Ses proches la marieront, et lui donneront une aussi grande dot qu'il convient à une fille bien-aimée. Et je te conseillerai sagement, si tu veux m'en croire. Arme ta meilleure nef de 20 rameurs, et va t'informer de ton père, parti depuis si longtemps, afin que quelqu'un des hommes t'en parle, ou que tu entendes un de ces bruits de Zeus qui dispense le mieux la gloire aux hommes. Rends-toi d'abord à Pylos, et interroge le divin Nestor, puis à Sparte, auprès du blond Ménélaos, qui est revenu le dernier des Achéens cuirassés d'airain. Si tu apprends que ton père est vivant et revient, attends encore une année, malgré ta douleur. Mais si tu apprends qu'il est mort, ayant cessé d'exister, reviens dans la chère terre natale pour lui élever un tombeau et célébrer de grandes funérailles comme il convient, et donner ta mère à un mari. Puis lorsque tu auras fait et achevé tout cela, songe de l'esprit et du cœur à tuer les prétendants dans ta demeure, par ruse ou par force. Il ne faut plus te livrer aux choses enfantines, car tu n'en as plus l'âge. Ne sais-tu pas de quelle gloire s'est couvert le divin Oreste parmi les hommes, en tuant le meurtrier de son père illustre, Égistos aux ruses perfides? Toi aussi, ami, que voilà grand et beau, sois brave, afin que les hommes futurs te louent. Je vais redescendre vers ma nef rapide, et mes compagnons qui s'irritent sans doute de m'attendre. Souviens-toi, et ne néglige point mes paroles. Et le sage Télémachos lui répondit : Étranger, tu m'as parlé en ami, comme un père à son fils, et je n'oublierai jamais tes paroles. Mais reste, bien que tu sois pressé, afin que t'étant baigné et ayant charmé ton cœur, tu retournes vers ta nef plein de joie, avec un présent riche et précieux, qui te viendra de moi, et sera tel que des amis en offrent à leurs hôtes. Et la déesse Athénée aux yeux clairs lui répondit : Ne me retiens plus. Il faut que je parte. Quand je reviendrai, tu me donneras ce présent que ton cœur me destine, afin que je l'emporte dans ma demeure, qu'il soit fort beau, et que je puisse t'en offrir un semblable. » Et Athénée aux yeux clairs, ayant ainsi parlé, s'envola et disparut comme un oiseau. Mais elle lui laissa au cœur la force et l'audace et le souvenir plus vif de son père. Et lui, le cœur plein de crainte, pensa dans son esprit que c'était un dieu. Puis le divin jeune homme s'approcha des prétendants. Et l'Aoïde très illustre chantait, et ils étaient assis, l'écoutant en silence. Et ils chantaient le retour fatal des Achéens, que Pallas Athénée leur avait infligé au sortir de Troie. Et de la haute chambre, la fille d'Icarios, la sage Pénélopéia, entendit ce chant divin, et elle descendit l'escalier élevé, non pas seule, mais suivie de deux servantes. Et quand la divine femme fut auprès des prétendants, elle resta debout contre la porte, sur le seuil de la salle solidement construite, avec un beau voile sur les joues, et les honnêtes servantes se tenaient à ses côtés. Et elle pleura, et elle dit à l'Aoïde divin, « Phémios, tu sais d'autres chants par lesquels les Aoïdes célèbrent les actions des hommes et des dieux. Assis au milieu de ceux-ci, chante-leur une de ces choses, tandis qu'ils boivent du vin en silence. Mais cesse ce triste chant qui déchire mon cœur dans ma poitrine, puisque je suis la proie d'un deuil que je ne puis oublier. Car je pleure une tête bien-aimée, et je garde le souvenir éternel de l'homme dont la gloire emplit Hélas et Argos. » Et le sage Télémachos lui répondit, « Ma mère, pourquoi défends-tu que ce doux Aoïde nous réjouisse, comme son esprit le lui inspire? Les Aoïdes ne sont responsables de rien, et Zeus dispense ses dons aux poètes comme il lui plaît. Il ne faut point indigner contre celui-ci, parce qu'il chante la sombre destinée des Danaïens, car les hommes chantent toujours les choses les plus récentes. Et donc la force d'âme d'écouter. Odysseus n'a point perdu seul, à Troie le jour du retour, et beaucoup d'autres y sont morts aussi. Rentre dans ta demeure, continue tes travaux à l'aide de la toile et du fuseau, et remets tes servantes à leurs tâches. La parole appartient aux hommes, et surtout à moi qui commande ici. » Étonnée, Pénélopéia s'en retourna chez elle, emportant dans son cœur les sages paroles de son fils. Remontée dans les hautes chambres, avec ses femmes, elle pleura Odysseus, son cher mari, jusqu'à ce qu'Athénée, aux yeux clairs, eût répandu un doux sommeil sur ses paupières. Et les prétendants firent un grand bruit dans la sombre demeure, et tous désiraient partager son lit. Et le sage Télémachos commença de leur parler. « Prétendant de ma mère, qui avais une insolence arrogante, maintenant, réjouissons-nous, mangeons, et ne poussons point de clameurs. Car il est bien et convenable d'écouter un tel Aoïde qui est semblable au dieu par sa voix. Mais dès l'aube, rendons-nous tous à l'agora, afin que je vous déclare nettement que vous ayez tous à sortir d'ici. Faites d'autres repas, mangez vos biens en vous recevant tour à tour dans vos demeures. Mais s'il vous paraît meilleur de dévorer impunément la subsistance d'un seul homme, dévorez-la. Moi, je supplierai les dieux qui vivent toujours, afin que Zeus ordonne que votre action soit punie, et vous périrez peut-être sans vengeance dans cette demeure. » Il parla ainsi, et tous, se mordant les lèvres, s'étonnaient que Télémachos parlât avec cette audace. Et Antinoos, fils de Peïtès, lui répondit, « Télémachos, certes les dieux mêmes t'enseignent à parler haut et avec audace, mais puisse le Cronion ne point te faire roi dans Ithaque, entouré des flots, bien qu'elle soit ton héritage par ta naissance. » Et le sage Télémachos lui répondit, « Antinoos, quand tu t'irriterais contre moi à cause de mes paroles, je voudrais être roi par la volonté de Zeus. Penses-tu qu'il soit mauvais de l'être parmi les hommes? Il n'est point malheureux de régner. On possède une riche demeure, et on est honoré. Mais beaucoup d'autres rois achéens, jeunes et vieux, sont dans Ithaque entourés des flots. Qu'un d'entre eux règne, puisque le divin Odysseus est mort. Moi, du moins, je serai le maître de la demeure et des esclaves que le divin Odysseus a conquis pour moi. » Et Eurymachos, fils de Polybos, lui répondit, « Télémachos, il appartient au dieu de décider quel sera l'Achéen qui règnera dans Ithaque entouré des flots. Pour toi, possède tes biens et commande dans ta demeure, et que nul ne te dépouille jamais par violence et contre ton gré, tant qu'Ithaque sera habité. Mais je veux, ami, t'interroger sur cet étranger. D'où est-il? De quelle terre se vante-t-il de sortir? Où est sa famille? Où est son pays? Apporte-t-il quelques nouvelles du retour de ton père? Est-il venu réclamer une dette? Il est parti promptement et n'a point daigné se faire connaître. Son aspect d'ailleurs n'est point celui d'un misérable. » Et le sage Télémachos lui répondit : « Eurymachos, certes mon père ne reviendra plus, et je n'en croirais pas la nouvelle s'il m'en venait. Et je ne me soucie point des prédictions que ma mère demande au divinateur, qu'elle a appelé dans cette demeure. Mais cet hôte de mes pères est de Taphos, et il se vante d'être Mentès, fils du brave Ankyalos, et il commande aux Taphiens, amis des avirons. » Et Télémachos parla ainsi, mais dans son cœur, il avait reconnu la déesse immortelle. Donc les prétendants, se livrant aux danses et aux chants, se réjouissaient en attendant le soir. Et comme ils se réjouissaient, la nuit survint. Alors, désirant dormir, chacun d'eux rentra dans sa demeure. Et Télémachos monta dans la chambre haute qui avait été construite pour lui dans une belle cour et d'où l'on voyait de tous côtés. Et il se coucha, l'esprit plein de pensées. Et la sage Eurycléia portait des flambeaux allumés, et elle était fille d'Ops Peisénoride. Et Laertès l'avait achetée dans sa première jeunesse et payée du prix de 20 bœufs. Et il l'honorait dans sa demeure autant qu'une chaste épouse. Mais il ne s'était point uni à elle pour éviter la colère de sa femme. Elle portait des flambeaux allumés auprès de Télémachos et dans celle qu'il aimait le plus, l'ayant nourrie et élevée depuis son enfance. Elle ouvrit les portes de la chambre solidement construite, et il s'assit sur le lit, ôta sa molle tunique, et la remit entre les mains de la vieille femme au sage conseil. Elle plia et arrangea la tunique avec soin, et la suspendit à un clou auprès du lit sculpté. Puis sortant de la chambre, elle attira la porte par un anneau d'argent, dans lequel elle poussa le verrou à l'aide d'une courroie. Et Télémachos, couvert d'une toison de brebis, médita pendant toute la nuit le voyage qu'Athénée lui avait conseillé.